VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Nigeria, 7 soldats ont été tués mardi par de présumés djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, qui ont attaqué une position militaire dans le nord-est du pays. Les islamistes arrivés sur le terrain à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes s'en sont pris à un poste militaire dans le village de Maïnok, à 56 km de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, sur la route menant à Damaturu, la capitale de l'État voisin de Yobe. Les djihadistes ont emporté 2 camions militaires et 3 mitrailleuses anti-aériennes. Les combattants de l'ISWAP, faction de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique depuis 2016, visent particulièrement les bases militaires dans toute la région du lac Tchad et à la frontière entre le Nigeria et le Niger depuis la mi-2018. Ces 2 dernières semaines, 15 soldats nigériens ont péri dans 2 attaques menées dans cette même zone entre Maïdougouri et Damaturu. Au Burkina Faso, 36 civils ont été tués et 3 blessés lundi lors d'une attaque contre des villages de la province de San Matenga dans le nord du pays. Le gouvernement parle d'une attaque terroriste et a décrété un deuil national. Bakassi Kora.
Selon le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danginou, lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 personnes, brûlé le marché, puis dans son repli a abattu 4 autres personnes au niveau du village d'Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés, précise le ministre. Des centaines de personnes ont fui la zone pour se réfugier dans la ville de Kaya, selon des témoins. La province du San Matenga, située juste au-dessus de la province du Soum, frontalière avec le Mali, a de nombreux camps de réfugiés et déplacés internes. Le président Rochmar Christian Kabore a décrété un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier au jeudi 23 janvier. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, précise le communiqué du gouvernement. Le Parlement burkinabé a adopté hier à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte antiterroriste.
Au Niger voisin, 5527, c'est à la date du 21 janvier 2020, le nombre de déplacés internes dans la région de Tillabéri dans l'ouest du pays, en raison principalement des attaques contre les positions militaires d'Inates et de Chiné-Godar. Le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU, OCHA, a publié à ce sujet un bulletin que nous résume notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le plus grand nombre de personnes déplacées internes a été enregistré dans les départements de Wallam, Bani Bangou, Ayerou et dans la localité de Tichguel, selon un bulletin publié par OCHA. Les premières vagues sont arrivées à Wallam, à 90 km de la capitale Niamey, le 14 janvier. À ces personnes déplacées, il faut ajouter, selon toujours OCHA, le cas de 236 ménages nigériens qui ont traversé la frontière pour s'installer au village malien de Andirambukan, situé à 18 km de Sinégodère. Selon les acteurs humanitaires sur le terrain, ces mouvements de population qui continuent pourraient prendre de l'ampleur dans les prochains jours. La psychose grandissante des attaques et de violences perpétrées par des éléments des groupes armés non étatiques va inciter beaucoup de personnes à se déplacer pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés. Abris, eau, hygiène et assainissement, mais aussi des sites d'accueil viabilisés au regard de la promiscuité dans laquelle vivent ces personnes sont les besoins pour l'instant identifiés par les acteurs humanitaires, dont le plus grand défi reste l'accès aux populations, les mesures d'état d'urgence en vigueur dans la région ainsi que l'imposition d'escortes militaires visant les missions humanitaires, le tout dans un climat d'insécurité, freine sérieusement la réponse, conclut le bulletin. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Agitation en Guinée. La banlieue de la capitale Conakry et plusieurs villes du pays ont été le théâtre de nouveaux heurts mardi lors d'une journée de mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, un collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mènent le mouvement, avait appelé les Guinéens à une mobilisation massive hier, mardi et aujourd'hui, et aussi à la désobéissance civile visant en particulier les activités économiques. La protestation a cependant paru moins intense que la semaine précédente où elle avait coûté la vie à au moins 3 civils et où des bâtiments officiels avaient été attaqués. Au moins 23 civils et un gendarme sont morts depuis la mi-octobre. Et puis au Togo, à un mois du premier tour de la présidentielle du 22 février, l'opposition peine à s'entendre sur une stratégie commune. Si d'un côté, on estime que seule une candidature unique de l'opposition peut garantir l'alternance dans le pays en cette année 2020, de l'autre, on mise sur l'invalidation de la candidature du président Faure Gnassingbé, doublée à des conditions de transparence, nous dit de Lomé notre correspondante Kay Lawson.
Combien de candidats seront face à Faure Gnassingbé le 22 février prochain? Pour l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Baudreau, la question ne se pose pas. Il estime que le candidat Agbome Kodjo, à qui il a donné son onction, doit être le seul. Ainsi, le prélat appelle les 5 autres candidats de l'opposition à s'aligner derrière Agbome Kodjo pour donner le coup de grâce au président sortant. Mgr Baudreau insiste sur l'unicité de la candidature de l'opposition.
Cette année 2020, aucune défaite n'est envisageable et seule l'union peut nous l'assurer, car un seul candidat contre Faure Gnassingbé est la meilleure garantie de l'alternance pacifique au Togo.
Un appel qui visiblement irrite le candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Nous écoutons le candidat Jean-Pierre Fabre de l'ANC.
Vous ne pouvez pas prétendre faire de la démocratie et choisir des candidats. Les candidats, c'est le peuple qui les choisit. Les Béninois ont 83 candidats. Contre le candidat du parti au pouvoir, ils ont battu.
On a perdu combien de temps à parler de candidature unique?
Vous avez constaté, depuis qu'on en discute, qu'il arrivera un moment où on tombera d'accord. Si vous n'avez pas constaté, abandonnez.
Si le consensus autour d'une candidature unique de l'opposition fait défaut, les candidats sont d'accord à œuvrer ensemble pour arracher des conditions électorales démocratiques pour l'avènement de l'alternance au Togo. Agbome Kodjo, candidat à l'élection présidentielle.
Nous nous soutenons tous avec un seul objectif, l'alternance. Ce qui nous lie, nous, c'est de tout faire pour donner donc à la population togolaise son alternance en 2020. Là-dessus, entre nous, candidats, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices.
Il est à noter que le candidat Jean-Pierre Fabre a déposé ce 20 janvier un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la candidature de Faure Gnassingbé. Le candidat de l'ANC estime que cette candidature du président sortant, qui brigue un quatrième mandat, viole l'article 59 de la Constitution togolaise qui dispose que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Politique en République centrafricaine, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a accordé mardi après-midi une audience à l'ex-chef de l'État François Bozizé, revenu dans le pays en décembre après un exil de 6 ans. La question de l'attribution du passeport de François Bozizé, rentré en catimini à Bangui le 15 décembre, était au menu des discussions. La régularisation de la situation de certains militaires proches de l'ancien président exclus des rangs, ainsi que l'examen du projet de loi sur le statut des anciens présidents ont également été abordés pendant l'entretien. Et pour terminer, actualité aux États-Unis, procès du président Donald Trump au Sénat à Washington. La Chambre haute du Congrès, contrôlée par les Républicains, a rejeté mardi les propositions des parlementaires démocrates visant à contraindre l'administration américaine à fournir plus de documents et de preuves dans le cadre du procès en destitution du chef de l'exécutif, laissant entrevoir une issue favorable pour le président. Au premier jour du troisième procès en impeachment de l'histoire des États-Unis, les 53 sénateurs républicains ont voté contre les différentes motions déposées par le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer, visant à réclamer des documents à la Maison-Blanche, au département d'État, au Pentagone et au bureau de la gestion et du budget lié au dossier ukrainien. La majorité a également refusé de faire citer à comparaître Mick Mulvaney, le secrétaire général de la Maison-Blanche en exercice, et aussi John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.